Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut à tous, le paddock RMC, ton podcast Formule 1, c'est tous les lundis, on a un peu de retard, mais c'est parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans le monde de la Formule 1. On va parler tout à l'heure de l'info du jour, Adrian Newey a signé chez Aston Martin, on va revenir sur cette grosse info, et puis on va parler de McLaren avec les ingénieurs du paddock RMC, ils sont là, ils sont tout frais, comme tous les lundis. Julien Absalon est de retour, salut Julien, ça faisait longtemps.
Salut tout le monde.
Ça t'avait pas manqué quand même le paddock ?
Ah si quand même, hein. La Formule 1 c'est toujours un plaisir.
Donc, lui il enchaîne les courses, c'est notre Paul Laffitte à nous, salut Paul.
Salut Nico, salut les gars, bonjour à toutes et à tous.
Et on a un petit nouveau les gars, Arnaud Valadon, on espère qu'il fera pas une Bruno Famin, Arnaud, qui va rester un peu plus longtemps avec nous que Bruno. Comment ça va
Arnaud ? Salut, très heureux d'être avec vous, j'espère ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Alors je sais pas, je me disais est-ce que je viens un peu en Oliver Berman ou Andrea Kimi Antonelli, et je me suis dit comme j'ai une très grosse relation avec toi, je suis un peu Lance Stroll en fait.
Bah ouais, ah mince. Non, parce que
toi, autant Lance Stroll et moi je suis Lance Stroll.
Autant début Berman, Antonelli, je me suis dit un peu le boulard, mais là Stroll ça y est, t'es rentré dans le rang.
Enfin, Nico,
je ne suis là que grâce à toi.
Nico, pour Arnaud Valadon, un petit nouveau en Formule 1 car il occupe les antennes évidemment d'RMC et d'RMC Sport.
Bien évidemment. Tout au long de l'année quand même. Basket Time que vous pouvez télécharger juste après avoir écouté le paddock, bien évidemment.
Je vous le conseille.
Les gars, on parlait de McLaren. Comment McLaren est redevenu le meilleur team du plateau? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont travaillé pour en arriver là? La restructuration a été assez complète. Ça fait plusieurs mois qu'ils bossent vraiment très bien. Il y a plein de petites évolutions sur la McLaren 38 qui font que elle arrive à être désormais la machine la plus performante du plateau, puisqu'ils restent sur 4 pole positions consécutives, nos amis de chez McLaren. C'est parti pour le paddock RMC.
Le paddock RMC.
Je vous le disais, 4 pôles positions consécutives pour McLaren, un pilote Lando Norris qui est sur une trajectoire ascendante, un Oscar Piastri, le deuxième pilote 1 bis, qui match pour faire des podiums à toutes les courses. On a peut-être potentiellement un titre constructeur qui se profile vraiment là fortement sur la fin de saison, et pourquoi pas un Lando Norris qui vient chatouiller notre ami Max Verstappen pour le titre de champion du monde pilote. Donc ça fait quand même énormément de choses et une dynamique ultra positive pour cette équipe de McLaren. Julien, tiens, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qui fait que McLaren en est là? Ça a vraiment bien bossé depuis plusieurs mois. Ça fait quelques temps qu'ils se sont restructurés. Ils avaient fait une fin de saison dernière déjà très positive. Mais encore cette année, là, ils sont montés en puissance.
Oui, absolument. En fait, on voit là, c'est ça. On avait commencé à voir l'année dernière que ça travaillait bien, que ça rattrapait Red Bull. Alors, Red Bull était intouchable. Et puis alors, en début de saison, on se disait, bon, Red Bull, c'est pareil de nouveau, impossible à challenger. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a une équipe, il y a vraiment une équipe qui travaille bien. Alors, on reviendra dessus, mais il y a eu des investissements, des infrastructures qui ont été développées. On a aussi un très bon duo de pilotes, hein, c'est aussi à souligner. Et comme il y a des circonstances favorables à McLaren aussi extérieures, c'est-à-dire que Red Bull n'avance plus pour diverses raisons, ça fait que McLaren est aujourd'hui, on se dit, c'est favori pour le titre constructeur. Pilote, c'est un peu compliqué, mais avec les courses qu'on vient de voir, après la pause estivale, clairement, on peut se dire que Verstappen doit faire attention.
C'est vrai qu'ils se sont parfaitement restructurés, Arnaud, nos amis de chez McLaren. Il y a un homme un peu Andrea Stella qui cristallise tout ça. Tu sens que maintenant, c'est une équipe qui roule. Alors, il y a des petits problèmes de stratégie en course encore, hein. Ils n'ont pas tout mis vraiment bout à bout pour aligner les victoires. Mais cette restructuration, elle est forte. Ils ont pris aussi des parties forts en fin de saison, techniquement, technologiquement, et ça paye.
On voit que évidemment en aéro ils ont énormément bossé. T'as parlé d'Andrea Stella, mais moi je trouve que on sait que c'est à la fois du temps long la Formule 1 et que tu peux pas être compétitif comme ça. Moi je me rappelle du véritable tracteur avec ce moteur Honda. On voyait Fernando Alonso 2015, 2016, 2017 dans cette période-là qui traînait tout simplement sa peine. Ils ont changé. On n'oublie pas qu'ils sont passés chez Renault. Ça allait un petit peu mieux. Ouais. Et là ils sont motorisés par Mercedes avec ce V6. Et je pense que tout part déjà de ces choix dans le temps long. Stella est là depuis 2015. Quand même un gros ingénieur de chez Ferrari, hein. Ouais, ingénieur de piste. juste ingénieur pilote. Donc, tu as à la fois cette expérience. Tu prends Zak Brown, quand même, le patron américain de cette écurie, qui a aussi une expérience très importante de pilote. On le voit parfois conduire souvent des anciennes McLaren. Donc, tu sens aussi que c'est vraiment un tout, mais de gens qui connaissent la Formule 1. On va évidemment peut-être faire un peu le parallèle par rapport à Renault et Alpine, où tu as sans cesse des changements et pas forcément. Alors, je te dis pas qu'il faut rester des gens du sérail, mais il faut des gens qui connaissent la Formule 1. Le sport auto est tellement vaste que ça englobe plein de sphères, mais qui sont pas forcément connectées les unes avec les autres. Et moi, je trouve que l'arrivée de Zak Brown, évidemment, en 2018, on attendait un énorme patron parce que c'était Ron Dennis, que moi j'ai connu quand je regardais la F1 tout gamin. Et donc, on voyait.
Mika Hakkinen, David Coulthard.
Voilà, ces magnifiques voitures. Donc, c'est un ensemble de choses sur le temps long. Tu as tes équipes, tu fais aussi les bons choix avec les moteurs parce que McLaren ne développe pas ses moteurs.
Ça facilite beaucoup l'affaire quand même, d'avoir à moins se concentrer sur le fait qu'il y a un moteur un peu pourri à la base, on se rappelle, avec Alonso qui était le moteur de GP2, hein, il disait.
Exactement. Ouais. Et pour rejoindre juste Julien sur la line-up de pilotes, la stabilité, alors c'est vrai que c'est que la deuxième saison où tu as Piastri, Norris, mais je crois que c'est 2026 pour Piastri, 2027 pour Norris les contrats. Tu sens c'est aussi ça. La stabilité. Tu avais récupéré quand même un Ricciardo. Je regardais les points que Ricciardo avait pris face à Norris en 2022, c'était 122 points à 37. Donc tu avais aussi un Ricciardo.
Ricciardo n'était pas dedans.
Voilà. Donc peut-être que ça aurait pu arriver plus tôt, cette éclosion. Mais c'est vrai que là, ils sont impressionnants. La voiture est très stable et tu as une Red Bull qui patine de l'autre côté. Donc ça, clairement, pour le Grand Prix des constructeurs, il n'y a même pas 10 points, je crois, d'écart entre les deux.
C'est ça.
Maintenant, 8 points. 8 points d'écart. Ils vont, je pense, peut-être aller chercher ce titre constructeur. Comme disait Julien, là, les 60 points. Et peut-être, on pourra en parler, le fait qu'il n'arrive peut-être pas à faire de choix entre Norris et Piastri en course va forcément peut-être les pénaliser, au moins pour cette saison. Là, on rentre évidemment dans des logiques de choix de pilote. On sait qu'à un moment donné, il faut faire un choix véritable de numéro 1 et le bon numéro 1.
Ouais, mais ça, c'est vrai qu'on en a parlé, Paul, la semaine dernière, hein, de cette histoire-là, de non-choix qui peut les perturber. On a surtout aussi l'impression que c'est la seule voiture qui a évolué positivement dans la saison à chaque nouveauté. À chaque fois que des innovations ont été installées, je crois que les premières, ça date à peu près de Miami, où ils arrivent avec un nouveau package. La voiture progresse. Est-ce qu'il n'a pas été le cas de Ferrari ? Alors, la Red Bull, mais même Mercedes, où les perfs sont très sinusoïdales. Là, McLaren, tu sens qu'à chaque fois que les ingénieurs mettent en place quelque chose sur la voiture, ça progresse.
Ouais, alors ça progresse évidemment, mais comme vous le précisiez tous, messieurs, effectivement, il n'y a pas encore aujourd'hui de consigne d'écurie. Hein. Ce sera le mot d'ordre d'ailleurs lors du prochain Grand Prix à Bakou ce week-end en Azerbaïdjan. Et c'est ça qui plombe un peu aujourd'hui l'écurie McLaren, car lorsqu'il y avait la meilleure voiture, que ce soit la Mercedes avec Hamilton, que ce soit la Red Bull avec Verstappen, eh bien à l'arrivée, ces deux pilotes gagnaient quasiment à chaque Grand Prix. Ce qui n'est pas le cas de Lando Norris, qui a transformé une pole position lors du Grand Prix de Zandvoort, mais qui s'est fait qui s'est fait avoir tout simplement par Oscar Piastri, qui a joué sa pièce, hein, tout simplement sur le dernier Grand Prix à Monza. Alors certes, il y a eu la victoire de Charles Leclerc, là encore pour peut-être un problème dans les stands, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui la meilleure voiture, tu le précisais Nico, un package aérodynamique qui a été redessiné depuis Miami, avec un nouvel aileron également, un nouveau carénage, un flux d'air qui a évolué énormément et qui permet donc aujourd'hui et à Lando Norris et à Oscar Piastri d'être très performant, que ce soit en qualification ou en course le dimanche. Mais encore une fois, et vous en parliez messieurs, un grand coup de chapeau quand même à Andrea Stella. On va pas refaire son CV, mais c'est un homme qui avait commencé quand même sa carrière chez Ferrari en 2000, qui a été l'ingénieur de performance de Michael Schumacher, qui a été l'ingénieur également de Kimi Raikkonen lorsque ce dernier a été champion du monde avec Ferrari, c'était en 2007. Il a également été aux côtés de Fernando Alonso, donc c'est un cadeau. Et aujourd'hui, et bien depuis qu'il est revenu chez McLaren, c'était en 2015, il arrive avec sa science de l'aérodynamique, sa science tout court, j'ai envie de dire, à porter cette équipe sur le devant de la scène. Et on se ravit tout le week-end de voir qu'il y a de la bagarre avec Red Bull, avec Ferrari et dans une moindre mesure avec Mercedes.
Et Nico, j'ai la stat pour Jean-Michel. Vas-y. Départ raté, hein, c'est Lando Norris. Il a fait 4 pôles cette saison. À chaque fois, il n'a pas gardé sa première place. Il y avait la course au sprint en Chine, il passe de premier à 7. Il y a en Espagne de premier à 3. Il y a la Hongrie de premier à 3. Et là, de premier à 4 à Zandvoort. Ce qui est quand même un peu problématique. Et je pense, moi, je commence à me poser quelques questions quand même sur le potentiel champion. Pour Lando Norris, j'ai l'impression que Piastri est en train de monter, tu vois.
Ouais, on y reviendra, mais alors après, bon, on rappelle quand même que toutes ces procédures de départ, Julien, c'est des procédures maintenant mécaniques, hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément le pilote qui fait que la voiture part mal. Tout est calibré technologiquement.
N'en parlez pas, Jean-Luc.
C'est toi qui lâches l'embrayage.
Oui, après, c'est tu lâches l'embrayage, mais en même temps, bon, après, il faut trouver le bon régime, être capable de sentir la piste, le patinage, parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est ça, c'est de trouver le bon moment de passer pour passer la deuxième ou justement de retarder le passage à la deuxième. Bon, c'est un mélange, mais c'est quand même le pilote, hein, qui gère ça principalement.
Parle-nous des infrastructures aussi, Julien. Ils ont une nouvelle soufflerie. Alors, on rappelle que l'usine se trouve à Woking, hein, c'est en Angleterre. Il n'y a pas eu de révolution en fait chez McLaren sur ces derniers mois, ces dernières années. Il y a eu à chaque fois des adaptations et voilà. Et de nouvelles améliorations qui ont été faites au sein de l'usine.
Ouais, en fait, Stella disait justement dernièrement, en gros, qu'il y avait eu un problème de 15 années de sous-investissement chez McLaren. Donc, en fait, au bout d'un moment, 15 années, c'est énorme. Il y a eu, comme on disait, du coup, les problèmes sur les moteurs qui n'ont pas aidé. Parce que forcément, quand il y a, en fait, le moteur ne fonctionne pas, c'est dur derrière de se dire, bon, bah, là, on peut enfin développer, enfin, voir le long terme. On peut se concentrer sur l'aéro parce qu'en fait, ils sont là, ils se disent, mais est-ce qu'on peut pas régler quelque chose sur le moteur? Alors qu'en fait, ils savent pas avec Honda d'où vient le problème. Bon. Mais effectivement, ils ont une nouvelle soufflerie, nouveau simulateur aussi. Qu'est-ce que j'avais noté? Puis ouais, ils disaient nouvelles installations pour la production de matériaux. Donc vraiment, ils ont absolument tout refait. Et en fait, c'est là où on constate juste qu'il n'y a pas de secret en Formule 1. C'est-à-dire que il y a les pilotes, effectivement, il y a les ingénieurs, mais au bout d'un moment, il faut que les ingénieurs puissent travailler dans de bonnes conditions avec du bon matos. Et du coup, bah, il a fallu un peu patienter, enchaîner des saisons décevantes. Et grâce, effectivement, aussi à Stella, qui a été un très bon chef d'orchestre, qui l'est toujours, d'ailleurs. Et puis, il y a Brown, mais il y a surtout Stella. Effectivement, voilà, maintenant, ils peuvent, par exemple, sur la soufflerie, ils disaient, voilà, on prend notre temps, mais parce qu'en plus, comme ils ont progressé, ils ont moins... En fait, le règlement fait que plus t'es haut dans le...
Oui,
le
moins t'as de temps.
Voilà, c'est ça, plus t'es haut dans le championnat constructeur. Et en fait, moins t'as de passages en soufflerie.
Ouais.
Et du coup, grâce en fait avec leurs nouvelles installations, ils peuvent mieux travailler. Et ils disaient, bah, on peut même prendre notre temps pour mieux avoir de meilleurs résultats. Quoi.
Et surtout, c'est le côté de rendre sexy le projet. Parce que ça va vite en Formule 1 de passer d'une écurie attractive où tu as envie de bosser à une écurie où tu as des questions sur l'avenir, sur quel est le projet. Et là, McLaren, c'est sûr qu'il y a 10 ans, tu n'avais peut-être pas forcément envie d'y aller. Et aujourd'hui, quand tu vois ce qui est mis en place, le projet, il est cohérent, il est sexy et tu te dis que ça peut être...
Il est sain,
exactement.
Il n'y a pas d'histoire de lutte d'influence bizarre ou de scandale à la Christian Horner. C'est sain, tout le monde va dans la même direction. Alors aussi, bah, parce que c'est un cercle vertueux, ça travaille bien, donc c'est sain, etc. Si les résultats flanchent, c'est autre chose. Mais oui, absolument.
Mais ce qui est super intéressant, c'est... Vas-y, Paul.
Non, même si quand même, moi j'y mettrais quand même un petit bémol, c'est vrai que ça marche bien, qu'aujourd'hui la McLaren est la Formule 1 la plus performante du plateau, mais en fait on voit quand même que depuis le début de la saison, bon, c'est vrai que Max Verstappen avait très très bien débuté, mais que Mercedes s'est retrouvé sur le devant de la scène, que ce soit en Grande-Bretagne ou que ce soit Spa-Francorchamps, on a vu les Ferrari gagner à Monaco sur un circuit en ville très atypique, la victoire de Charles Leclerc également à Monza, McLaren qui gagne de temps en temps avec Piastri ou avec Norris, il y a plusieurs forces en présence. Et on se rend compte que, peut-être à l'exception de McLaren, aujourd'hui, des écuries sont capables de briller un week-end et d'être complètement à côté de la plaque le week-end qui suit. Et ça vaut aussi pour McLaren, en tout cas sur la constance des résultats. Donc c'est pour ça que, je mets un petit bémol sur les performances globales de l'écurie, même si c'est vrai que c'est aujourd'hui la number one et qu'elle devrait normalement glaner le titre des constructeurs.
Bah, il y a trois périodes dans cette saison, de toute manière, les gars. Il y a le début de saison qui est 100% Red Bull. Après, tu as la période un peu à partir de Miami. là, l'été où tu avais l'impression que chaque week-end, tu avais une voiture différente qui pouvait gagner et qu'ils étaient 8-10 à chamailler pour la victoire. Et là, désormais, depuis, allez, quoi, un mois, tu sens que vraiment McLaren a pris le leadership.
J'ai fait mes petits comptes d'apothicaire parce que j'adore, tu sais, j'adore les chiffres. Et la Formule 1, c'est quand même aussi un sport de chiffres hein, quand tu es au chrono. Pour moi, la bascule, c'est Spielberg. C'est d'ailleurs depuis ce Grand Prix inclus où Max Verstappen ne gagne plus. Il y avait l'Espagne juste avant. Donc j'ai compté les points. Max a pris 82 points, Norris 91 points, Hamilton 91 points. Je compte les courses sprint hein, aussi.
Ouais.
Et Piastri 110 points.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter.
Il est là, Oscar.
C'est intéressant de noter que là, du coup, on parle de Spielberg, donc de l'Autriche. Et en fait, l'année dernière, donc bon, Red Bull gagne tout, mais McLaren en fait fait son retour un peu au premier plan, ou en tout cas se remet en ordre de marche à partir justement de l'Autriche 2023, parce que en fait, le premier tiers de la saison, c'est une catastrophe. Ils finissent les courses à un tour. Ou plus 60 secondes, enfin, c'était vraiment horrible. Et à Spielberg, ils font toute une refonte de l'aéro, vraiment, où notamment ils retravaillent les pontons, ils ont le fameux système de rampe en fait, qu'on avait commencé à voir d'ailleurs chez Alpine. C'est Alpine qui avait eu la bonne idée avec Racing Bull. Et c'est à partir de Spielberg où ils sont revenus ils avaient fait P4, 4e place avec Norris. Et donc, bon, bah voilà, c'est depuis effectivement. Et là, c'est pareil aussi en Autriche. On a vu une petite bascule. Alors, pourtant, il n'y a pas eu d'amélioration en Autriche. Hein, c'était Miami principalement. Mais voilà, c'est.
Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est super intéressant, Julien, parce que je lisais une interview de Stella qui disait que c'est à partir de l'Autriche l'année dernière où vraiment ils remettent tout en question, ce que tu disais là, sur la géométrie de la voiture, l'aérodynamisme et tout ça. Et il dit en fait qu'il a fallu tout changer, c'est-à-dire que même dans le management de l'équipe, en fait, il s'est beaucoup questionné sur comment apporter à cette équipe de McLaren. Il a revu tout le modèle de fonctionnement de l'équipe. La manière aussi d'identifier des leaders dans chaque département stratégique. Donc voilà, en fait, il a vraiment tout refaçonné, Stella, depuis le début de l'année 2023 où il sentait que la voiture était un peu mal née, quoi.
C'est la preuve qu'il arrive à bien analyser finalement ce qui se passe dans son écurie, à pas forcément se précipiter. Il y a un autre exemple justement sur ce côté observateur et prendre la décision au bon moment, c'est que en ce moment ils envisagent une amélioration sur le plancher. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est tout récent, Stella a dit. Bon, on a cette amélioration, mais en vrai, la voiture fonctionne. Bon, je résume le propos, hein, évidemment. La voiture fonctionne, mais on n'est pas certain à 100% des bénéfices qui vont être apportés. De l'efficacité du nouveau plancher. Eh ben, on va peut-être patienter parce qu'on a vu Red Bull se précipiter en début de saison avec ses améliorations et qui n'ont en fait pas du tout marché, qui ont même finalement ruiné la voiture. Alors ruiné entre guillemets, mais aussi faussé des calculs. Et donc là, il se dit attention, prudence. Et le fait que déjà l'année dernière. Donc ça, il y a eu un gros changement à Spielberg et que là c'était donc Miami. Ça veut dire qu'à chaque fois, bon bah ok, peut-être que le début de saison à chaque fois il est un peu raté, etc. Mais on arrive à chaque fois à se mettre sur les bonnes pistes pour rattraper tout ça et c'est même pas que rattraper, c'est vraiment se mettre au premier plan.
Ça fait du bien aussi, les gars, de revoir McLaren comme ça, tout en haut de la Formule 1, Paul, parce que bon, bah, c'est une écurie, bien évidemment, historique. Hein, mais ça faisait quand même quoi ? Ça faisait 25 ans qu'on attendait ça, de voir McLaren être capable de lutter pour un titre, que ce soit pilote ou constructeur.
Oui, mais ça fait vraiment très très longtemps. Alors, comme Arnaud Valadon est un fan de chiffres, je vais moi aussi vous en sortir quelques-uns. McLaren, qui a débuté en Formule 1, c'était en 1966 à Monaco. Première victoire en Belgique en 68. Au total, cette écurie a disputé 966 courses en Formule 1 pour 186 victoires. Les titres constructeurs, il y en a eu 8 au total, le premier en 74. Les pilotes, évidemment, il y en a eu 12. Hein. Tout le monde se souvient d'Alain Prost, d'Ayrton Senna. Un petit peu avant, Niki Lauda. Un petit peu plus proche de nous, il y a eu également Mika Hakkinen ou encore Lewis Hamilton. Et c'est vrai que cette McLaren, hein, avec ses premiers succès qui sont tombés en 74, est ensuite revenue au sommet au début des années 80. Et là, les amoureux de la Formule 1 se rappellent évidemment des fameux moteurs TAC Porsche, hein, ces fameux turbo-compressés, puis avec des moteurs Honda turbo-compressés, et qui ont donc amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et c'est vrai que Nico, tu as raison de le préciser, cela fait énormément plaisir aux amoureux des sports automobiles que de voir aujourd'hui McLaren, encore une fois, sur le sur le devant de la scène.
Et une tradition de grands pilotes.
Combien tu disais hein. Bah oui, bien sûr. Mmh. Attends, combien tu disais de grands prix là ? 966 dans l'histoire 900, de McLaren.
966 grands prix disputés, ouais.
C'est moins que Jean-Luc Roy, les gars, je crois.
Ouais, ouais. le boss reste le boss, hein, Nico.
Parlons des pilotes. On en parlait là, Arnaud, un petit peu. Toi, t'émettais des réserves sur Lando Norris. Moi, je trouve que franchement, la line-up, elle est. Déjà, être allé chercher Piastri, on le rappelle, hein, qui quitte Alpine, voilà,
bah, l'histoire de contrat. Ouais.
L'histoire de contrat. Pour le coup, Oscar Piastri, très bien conseillé, hein, parce que quand Mark il va Weber, chez McLaren, ouais, Weber, ouais. Donc voilà, très bien conseillé, il a choisi le bon cheval, mais t'aimais quand même des réserves sur cette line-up, alors qu'on a peut-être la sensation que c'est la plus complète là du plateau. Je sais pas ce que vous en pensez.
J'ai plus de réserves en fait sur Lando Norris, qui est à 24 ans. Je crois un an de moins seulement pour Oscar Piastri, donc il n'y a pas finalement une différence là. C'est vrai que Lando Norris, ça fait tellement longtemps qu'on le voit aussi,
tôt, ouais.
Mais il commence à avoir des grands prix, et je trouve que là les erreurs, la stat que je vous disais sur les départs, je trouve ça quand même catastrophique pour un pilote avec autant d'expérience en Formule 1. Si c'est Piastri qui fait ouais. ça, je dis bon, il est encore jeune, c'est sa deuxième saison, et là Lando Norris, il est censé...
119
numéro,
courses. Hein.
Numéro 1 incontesté. Et j'ai ouais. pas le sentiment, t'as parlé de numéro 1 bis. Moi, j'ai l'impression que le petit Oscar, il est en train, doucement mais sûrement, de lui passer devant. Alors, il l'est pas au classement des pilotes. Mais je sens que Piastri, il en a plus sous la pédale que Lando Norris aujourd'hui. Alors, peut-être que je vais me tromper, mais je sens quand même des petits points de fébrilité chez Lando Norris qui me font un petit peu douter.
Non, mais c'est aussi que ça peut se décider. Le côté numéro 1 vraiment affirmé à 100%, ça peut se décider en 2025 aussi. Parce que là, il peut, comment dire, McLaren peut inciter Norris à dire bon, on t'a plongé confortablement, t'es quand même numéro 1, effectivement, sans doute sur le papier. Mais voilà, là, vous êtes tous les deux d'un niveau quasiment équivalent. Et en fait, on a besoin de ce titre constructeur. Donc là, vos égos, essayez de le mettre, enfin, surtout pour Norris, hein, mais essayez de le mettre de côté. Là, l'idée, c'est que là, on a la line-up la plus complète.
Les points.
On peut faire les points, les engranger au max, même sans les victoires. Hein. L'important, c'est de prendre les points, parce qu'en fait, Red Bull à côté, il n'y a qu'une voiture qui. Enfin,
ouais.
Les deux.
Il y a Fantomas dans la deuxième.
Voilà, on ne sait pas ce que fait Perez. Donc,
Bah, c'est Fantomas. Il est là, mais t'as rien. Ouais. Ouais.
Et même Verstappen commence à avoir du mal quand même, messieurs, quand même. Max Verstappen, c'est vrai que on parlait de son début de saison qui a été exceptionnel, hein, on s'attendait à le voir dominer, hein. Rappelez-vous les épisodes du paddock F1 où Jean-Luc, c'est vrai, nous disait on est reparti pour une saison avec une domination de Max Verstappen, et c'est vrai qu'il est en train de sombrer, hein, avec une monoplace qui n'est plus au niveau. Alors Perez, on n'en parle plus, Verstappen commence à faire des milieux de grille, donc c'est vrai que McLaren a tout intérêt à avoir un discours positif pour le championnat constructeur. Et on en parlait il y a 15 jours, Nico.
Là, ils peuvent pas passer à côté. Ils peuvent pas passer à côté, là, les gars.
McLaren sera champion. McLaren sera champion.
Je sais pas, mais doute. Bon, sauf si t'as de gros problèmes de fiabilité et mécanique sur la fin de saison.
Les Formule 1 d'aujourd'hui n'ont plus de problèmes de fiabilité. Bah,
hein, après, tu peux avoir toujours les pénalités qui tombent en fin de saison pour tes quotas de moteur, de pièces.
Après, ça sera pour un peu tout le monde. Donc, le tout, c'est de savoir bien placer ta pénalité.
Est-ce que les gars, si jamais Lando Norris rate un peu sa fin de saison là, ça remet des choses en question pour les années à venir, vraiment. Est-ce que McLaren peut se dire bon bah nous on bosse bien, ça fait 2-3 ans que la restructuration est forte, ça marche, on va très certainement remporter le titre constructeur. Mais tu vois Julien, ce que disait Arnaud, est-ce que si Norris il est trop léger, faut pas aller chercher un cador, quelqu'un qui sait gagner, quelqu'un qui a déjà gagné.
Je crois que là les contrats.
Moi, franchement j'en doute. En fait dans cette histoire à chaque fois c'est juste quand on parle de mercato et sur ce genre de questions là, c'est ok, c'est seulement si Verstappen est disponible. Oui dans ce cas on peut imaginer un Norris ou Piastri qui est remplacé. Mais très franchement, en plus Norris il est britannique. La Formule 1 c'est anglais, enfin bon voilà. Donc non, franchement j'ai du mal à imaginer un retournement de situation chez McLaren au niveau des pilotes.
2027 quand même le contrat, c'est lourd,
c'est
tu vois.
C'est costaud, hein. En plus c'est pas un petit contrat je pense, hein, donc
ouais, et puis aujourd'hui Lando Norris est deuxième du classement général et a quand même 44 points d'avance sur Oscar Piastri. Alors plus certes que, ouais. Il s'est peut-être un petit peu trompé, notamment Arnaud le répétait, sur ses pole positions, il n'arrive pas à boucler le premier tour en tête, mais enfin malgré tout il est aujourd'hui le dauphin de Max Verstappen, et on peut penser quand même raisonnablement que l'an prochain, il sera à minima avec cette étiquette de numéro 1 dans cette écurie, même si encore une fois, Oscar Piastri est très très bon, il le prouve tout au long de ses week-ends, que ce soit d'ailleurs sur les formats du Grand Prix ou même sur les courses sprint qu'il a déjà gagné. Donc un superbe duo de pilotes reconduit évidemment l'année prochaine et qui risque à mes yeux de faire mal et de briller tout au long de cette saison.
Et c'est pour ça que c'est 44 points. Je fais 241 points pour Norris, 187 pour Piastri. Il va peut-être perdre un peu, mais Norris doit vraiment terminer vice-champion du monde. Oui. Il reste 8 courses. Parce que justement, bah
là,
pour lui
ça, permettre, serait, ah
oui, 2025,
il peut être encore, il peut être champion en vrai.
Il peut être champion. 60 points de retard sur Max.
Ah, non, mais c'est dur, mais il faut faire plus de 7 points.
Ah, moi, je miserais sur un titre de Lando Norris quand même en fin de saison, parce que je pense que même s'il lorgne évidemment sur le classement le titre des constructeurs, lorsque l'on voit encore une fois les performances de la Red Bull depuis maintenant quand même pas mal de semaines, si McLaren continue de performer, ça peut quand même aller vite. Il reste quand même pas mal de points à distribuer. En tout cas, il sera, je suis certain, à la bagarre jusqu'au
bout. Je pense qu'après Baku et peut-être après Singapour, là derrière, il reste que 6 Grands Prix si tu as toujours 60 points.
Oui. Oui, là c'est mort, voilà. C'est râpé.
C'est vraiment, bon, si après, effectivement Max fait très peu de points sur Bakou et sur Singapour qui vont s'enchaîner, là, mais il a quand même une petite marge et le
talent. Et les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bah, alors bien sûr, les discours ont évolué chez McLaren, hein, c'est-à-dire moi je les ai toujours trouvés dans l'humilité. Julien, quand ils ont commencé à bosser, on les entendait pas trop, il n'y avait pas de déclaration tapageuse. Voilà, ils ont vraiment.
En plus, du côté de Stella, quand même, parce que Brown, généralement, ouais. Il aime bien quand même.
Il a un peu le boulard quand même.
Mais là, il se met un peu en retrait.
Il aime bien dire que bon, il est le patron, qu'il voilà, il connaît
il
bien.
Il roule
le
des
truc,
mécaniques, quoi.
Quand Ricardo a gagné à Monza, qu'est-ce qu'on l'a entendu partout, hein, et c'était vraiment.
Ouais, mais moi, j'aime bien. Moi, ça, c'est son côté Netflix américain. Moi, j'adore.
J'aime bien Wawa, toi.
Ouais.
Non, par contre, oui, Stella, lui, il est humble. D'ailleurs,
c'est ça.
Il y avait ce truc où, pareil, parce que du coup, j'ai retrouvé une interview où il disait. Non, c'était Zach Brown qui disait qu'en fait, Stella avait refusé le poste de team manager en 2019. Et alors que bon, il avait déjà le CV pour.
C'est ce
pour,
qu'il quoi. Fait, quoi. Ouais, ouais.
Et, ça, de ce côté-là, il est assez humble.
Mais là maintenant, tu vois, ils affirment, ils disent que maintenant, et ils s'en cachent pas en interview, avant les grands prix, avant les courses, avant le début des week-ends, ils disent, mais ça y est, maintenant, on sait qu'on peut remporter toutes les courses en fait, et que potentiellement, on peut remporter les deux titres.
Le truc, c'est que là, ça se voit, donc ouais. c'est dur ouais. de se cacher maintenant. C'est un peu comme, je sais pas, un club en foot là qui vise qui veut pas admettre qu'il vise le titre ou la qualif avec des champions, alors que bon, le classement factuellement, ils sont en train de le faire quoi. Donc
autre côté, heureusement qu'on parle d'humilité pour une équipe qui n'a quand même plus gagné depuis longtemps, que ce soit un championnat, on rappelait les chiffres tout à l'heure, qui n'a plus remporté un championnat pilote depuis Lewis Hamilton, un titre constructeur depuis aussi très longtemps. Donc je pense que le discours de Stella est empreint d'humilité et il a raison car, encore une fois, même s'ils sont sur le devant de la scène, ils n'ont encore aujourd'hui rien gagné.
Ouais, et puis en plus, on ne sait jamais ce qui peut, mine de rien, arriver du côté de Red Bull. À tout moment, Red Bull... trouve la solution sur la voiture. C'est ce qu'on entend dernièrement, ces dernières semaines, comme quoi ils ont identifié le problème. Après, bon, une fois qu'on l'a identifié, il faut savoir le résoudre ou produire même la nouvelle pièce, hein, comme il faut. Mais c'est pas impossible. Surtout que, bon, là, on a un peu tout à l'heure critiqué Verstappen, mais en vrai de vrai, quand Verstappen se met en mode c'est une horloge suisse et qu'il est capable de faire les temps qu'il faut et de faire pole plus meilleur tour et victoire, même avec une voiture moins bonne, c'est comme ce qu'il avait fait quand à l'époque il était chez que c'était Hamilton qui dominait. Ça peut très bien
principal souci, j'ai l'impression, à Red Bull, c'est le rythme. Tu sens vraiment aujourd'hui, avant tu sais que Max était peut-être pas fort, avait peut-être pas forcément la voiture pour faire la pole. On avait vu Ferrari être très performante avec sa pointe de vitesse, mais le rythme en course de Verstappen était juste dingue. Personne pouvait le suivre. Et là, tu le sens évidemment contesté. Le fait qu'il n'y ait pas Perez, parce que je vous ai aussi un peu écouté, messieurs, et notamment le King Jean-Luc, qui à la fois mentionne, si t'as pas ton coéquipier qui est là pour faire un petit peu bouchon derrière, ou en tout cas avoir des stratégies à deux, bah c'est plus facile aussi pour performer en course. Là, Max, il est tout seul face à deux McLaren, il se fait harceler. Et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué aussi pour lui en course, même si je serais quand même surpris qu'il ne soit pas champion du monde des pilotes par rapport au talent, par rapport à la voiture qui n'est pas non plus un tracteur ultime, hein, la Red Bull. Je pense que ça va quand même le faire pour l'Irlandais, mais voir quand même sous pression à la fois les Red Bull de perdre et les McLaren de se dire ah ben on n'est pas si loin, parce que c'est aussi bien quand t'es un petit peu l'outsider, le challenger, et que tu te rapproches un petit peu du Graal, que tu vas pas un peu te brûler les ailes, sans mauvais jeu de mots et sans mauvaise allusion.
Et Arnaud, il ne faut pas oublier une chose, c'est que on parlait du duel entre McLaren et Red Bull, mais on peut parler aujourd'hui de Ferrari, ouais. On peut parler de Mercedes, ce qui veut dire que si vraiment la Red Bull est moins performante, elle pourrait voir s'intercaler d'autres pilotes, que ce soit George Russell ou Lewis Hamilton ou Carlos Sainz et Charles Leclerc, hein, qui a quand même gagné et à Monaco et à Monza. Donc il reste encore 8 courses et si McLaren continue de dominer, on pourrait quand même voir une certaine différence. Il y a encore un gros matelas d'avance, tu le précisais, 60 points d'écart entre les deux premiers, mais ce n'est pas joué et je pense qu'ils vont quand même jouer ça jusqu'au bout.
Tu as raison parce que tu peux avoir le revers de la médaille où tu te dis c'est pas effectivement, on parle un peu d'un duel McLaren-Red Bull, mais t'as les Ferrari, les Mercedes qui peuvent prendre des points et à la fois ils peuvent prendre les points de McLaren. Donc tu vois dans cette bataille globale.
Ça peut être
à la fois des alliés et
des ennemis. Oui,
pour moi c'est plus un problème pour McLaren parce que en plus.
Fait 15-15-15-15, c'est bon. Hein.
Non, mais en plus, le McLaren, donc, qui n'a rien gagné depuis un bail, en plus, les deux pilotes sont très jeunes. Et du coup, c'est compliqué de se dire, OK, il faut battre Red Bull, mais il faut aussi faire attention niveau stratégie à McLaren. Et du coup, Ferrari aussi, qui on se disait, ils sont un temps en dessous, mais ils sont capables de sortir une victoire à Monza, tout simplement. Donc, c'est pas évident. Et c'est là où il peut y avoir des crispations. Comme on a un peu vu à Budapest, hein, où on se dit, mais du coup, comment on fait ? Est-ce qu'il faut mettre Norris devant ? Est-ce qu'il faut mettre Piastri devant ? Comment on gère les undercuts ? Donc, Red Bull a un problème en n'ayant qu'une seule voiture, mais le problème, c'est que pour McLaren, il n'y a pas que Red Bull à gérer, il y a aussi Hamilton, Russell, et donc, c'est là où il peut y avoir un petit caillou dans la chaussure sur la fin de la saison pour McLaren.
Les gars, je voulais qu'on revienne aussi sur cette info qui est tombée aujourd'hui. Ça y est, l'officialisation de l'arrivée d'Adrian Newey chez Aston Martin. Il vient comme actionnaire aussi. Julien, tu as pu écouter un peu la conférence de presse avec Lawrence Stroll. C'est un énorme coup hein, quand même pour Aston Martin. Alors techniquement, on ne sait pas trop, mais en tout cas, un coup marketing fabuleux dans le monde de la F1. Il frappe fort quand même, là, Aston Martin.
Oui, puis bon, alors évidemment, marketing, parce qu'en fait, simplement, c'est l'ingénieur star de la Formule 1, donc c'est parce qu'il y a les compétences. Donc bon, effectivement, Lawrence Stroll, derrière, c'est marrant, donc le propriétaire d'Aston Martin qui a dit avant tout actionnaire, mais quand même, il a aussi insisté sur le fait que Adrian Newey sera directeur technique. Il a dit ce sera le leader de l'équipe technique, tout simplement. Donc, il n'y a aucun doute dans le communiqué. Il parle de 2026, évidemment. Le moment où il y aura la révolution technique, la révolution des règlements techniques. Il débarque le 1er mars 2025, Adrian Newey, officiellement, chez Aston Martin.
Quelques mails avant, quand même. Hein.
Ça va lui laisser quelques mois pour essayer d'influer sur la première monoplace. C'est un laps de temps très court, donc faudra peut-être pas s'attendre à des miracles. Après, Aston Martin peut aussi très bien travailler en attendant, ça y a ouais. Aucun problème. Mais oui, c'est un énorme coup. Et puis on parle de 25 titres. Enfin, il a contribué à 25 titres de champion du monde, pilote et constructeur. Donc c'est évidemment, il va apporter une expertise de fou. Et puis aussi, ça peut faire un appel d'air. Des ingénieurs vont peut-être se dire dès maintenant, OK, Adrian Newey, il est chez Aston Martin. Ça peut être intéressant d'aller le rejoindre.
Moi, je pense à un pilote.
Ah, ou un pilote c'est vrai.
Un certain Max V.
Ouais.
Écoute, pas évidemment l'année prochaine, mais on sait que quand même, les luttes d'influence chez Red Bull, écoute, pourquoi pas. Tu vois une belle line. Tu préfères quoi ? Une line-up Fernando Alonso, Max Verstappen ou Lance Stroll et Max Verstappen ? On liait quand même le cas de Max. À ce que pourrait faire Adrian Newey. On sait qu'il y a quand même le clan Verstappen plus trop proche d'Adrian Newey avec la guerre, même si visiblement ça s'est quand même un peu tassé, on en parle beaucoup moins chez Red Bull de la guerre du côté Horner et le père de Max. Donc, écoute, on sait que c'est fou la Formule 1, mais là je pense qu'on a un horizon un peu plus lointain, peut-être 2026.
Ouais, de toute façon, quand on voit le chèque qu'a signé quand même Lawrence Stroll, hein, le patron de l'écurie Aston Martin, hein, on parle de 120 millions d'euros pour s'attacher les services du Britannique.
Un petit
on peut
billet,
que là
petit
aussi,
billet.
Il pourrait aussi signer un chèque pour voir dans son écurie finalement Max Verstappen. Donc, je rejoins Arnaud sur ce propos-là. Pourquoi pas ce package-là en 2026. En tout cas, c'est un package qui aurait de la gueule. Ça, c'est certain.
Mais lui, il est en train de construire son rêve, en fait. Hein,
un peu Lawrence le PSG, Stroll, hein. Non.
Ouais, mais c'est ça. Non, mais en plus, franchement, quand tu regardes les partenaires un peu qu'ils vont avoir là, il y a de quoi faire une équipe championne du monde, non? Honda, Newey,
Aramco,
exactement. Ça commence à être costaud là, non? On n'y croit pas.
Ouais, faut que la mayonnaise prenne.
Vous y croyez pas.
Non, mais voir. En fait, déjà, ouais. Je suis déçu quand même. Je m'attendais à ce que ça soit mieux la stade pour Aston. Tu vois,
cette saison.
Oui.
Ouais, est-ce que c'était une équipe on les sentait frétiller un peu et tu sens que bah, y a le top 4 et le reste du monde et qu'au final ils sont encore loin des meilleures écuries. Tu vois, comme moi je m'étais dit sur l'année dernière notamment avec Fernando, tu voyais des choses intéressantes. Et là, j'ai l'impression que le soufflet retombe un peu.
Ils ont souvent eu des problèmes de développement au cours de la saison. Ils ont eu des très bonnes idées. Alors là, pas tellement cette année, mais ils ont eu de très bonnes idées. Bon, au moment, ils ont carrément copié une Mercedes.
Oui. mais après ça, tout, c'était une belle idée.
Ah oui, intelligent, après tout. Mais par contre, ils avaient eu du mal à la développer. Et justement, ça, c'est ce que peut apporter Newey et les ingénieurs qui vont apprendre avec lui ou ceux qui vont débarquer. C'est comment, effectivement, tenir toute la saison. Mais ouais, le truc c'est que Aston Martin ça risque d'être très décevant la saison prochaine, là donc 2025, parce qu'en fait ils vont se concentrer à mort sur 2026 et donc 2025, attention, et peut-être qu'Alonso il va râler dans la radio à surveiller.
Ouais, c'est 200 victoires, hein, Adrian Newey en Formule 1, c'est pas mal quand même.
C'est plus qu'un bon nombre de pilotes, hein.
Ouais. Ouais. C'est vraiment pas mal. Les gars, merci beaucoup pour cet épisode du Paddock RMC. Prochain Paddock, ça sera lundi prochain, après Bakou. Bakou, c'est quoi? C'est un mélange de Monaco et de Monza, donc c'est Charles Leclerc qui gagne.
Il a une chicane qu'il aime pas trop, hein.
Ouais. Non, mais vous voyez qui là, à Bakou?
McLaren. Ouais.
Lewis Hamilton.
En tout cas, je vais pas
être. Ouais.
Lewis Hamilton. Ouais,
on n'enterre jamais un champion du monde. On n'enterre jamais un champion du monde.
Oscar Piastri.
Non mais ouais, je suis d'accord, Piastri quand même il est pas mal. Allez, moi je mets une petite pièce sur Carlito quand même. Mais sur Charles Leclerc, on a envie quand même, on aime bien quand il gagne Charles.
Ah, je croyais que tu parlais de Carlos Sainz quand tu évoquais Carlito, excuse-moi. Hein, tu vois.
Ah non.
C'est ton côté andalou ça, Nico.
Oui, évidemment, oui totalement, c'est vrai. Paddock RMC à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement bien sûr. N'oubliez pas de nous noter, n'oubliez pas de faire des commentaires, de venir noter Arnaud Valadon sur nos réseaux sociaux, il a été excellent. Franchement, alors là, basket, paralympique, le gars fait tout.
Incroyable.
Le gars fait tout, monstrueux sur la F1. Merci Arnaud, on t'accueille avec plaisir dans les prochains
épisodes. Merci pour l'invitation.
On s'est régalé et puis on vous dit à lundi prochain pour un nouvel épisode du Paddock. Bye bye.
Salut.
Le Paddock RMC.